Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public, et quel public au théâtre de l'Alliance française, pour un masque et la plume consacré à l'actualité littéraire avec Olivia de Lamberterie, Duel, Elisabeth Philippe de l'Obs, Jean-Claude Raspien-Jas de la Croix et Arnaud Vivian de Transfuge et de Regard. On parle ce soir du prix Goncourt tout chaud. La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bougarsar, mais aussi de celle qui l'a frôlée, tout juste, qui était Anne Berest, d'un roman montagnard, à la demande de Jean-Claude, de Jean-Christophe Ruffin. Des nouvelles à la demande d'Arnaud de la belle Laura Morante et du grand Richard Ford. Et je précise que dans le public, je suis ravi d'accueillir ce soir les élèves de terminale du lycée Saint Stanislas de Nantes, option cinéma, ainsi que des élèves de l'Université de Paris, un master 2 en histoire et audiovisuel, accompagnés de l'une de leurs professeurs, Madame Marine Beccarelli. Bienvenue à vous toutes et vous tous, ici ce soir au Théâtre de l'Alliance française, dans le courrier de la semaine. Don Léger a aimé Chevreuse de Patrick Modiano, sa jubilation à embrouiller les pistes, à enfumer le lecteur entre fiction et réalité, le perdre dans la brume du passé. 76 ans, prix Nobel, Modiano est un sacré galopin. Et il nous fait une fameuse pirouette. En revanche, Carmen Sorel de Villers-sur-Mer est restée à l'extérieur de Chevreuse, comme au seuil d'un appartement peuplé de fantômes. Comment s'accrocher à ces personnages flous dans des décors flous, avec des histoires floues? Aidez-moi, je vous en prie. On peut pas l'aider, voilà, on aime ou on n'aime pas, nous on aime, mais chacun évidemment garde sa liberté de lire. À propos de changer méthode d'Edouard Louis, Nathalie de Reims, qui est aide-soignante, nous écrit pour nous raconter comment sa fille, issue d'un milieu modeste, est devenue harpiste après avoir subi le rejet social. Il a fallu qu'elle s'extirpe de sa condition sociale, c'est pourquoi Édouard Louis, nous dit Nathalie, m'émeut au plus haut point. Quand je le lis, j'ai les larmes aux yeux. Il touche là où ça fait mal. Ma fille s'appelle Mélanie Génin. Elle a 33 ans. Elle est aujourd'hui harpiste à New York. Et Alain Cavalier a réalisé un petit documentaire sur le travail de Mélanie. Il est visible sur YouTube. Et puis, Eric Neuhoff, notre ami Eric Neuhoff, répond à Frédéric Becbédé. Notre ami Frédéric avait dû forcer un peu trop sur la vodka qu'il fabrique, car contrairement à ce qu'il a dit au Masque et la Plume, je n'aime pas du tout le livre de Tarantino. Il était une fois à Hollywood, bouillie indigeste, visiblement dictée sous l'emprise de substances avariées. Mais Frédéric était tellement étonné d'être d'accord ce soir-là avec Nelly Caprielian et les Inrecuptibles qu'il ne pouvait pas imaginer que le Figaro littéraire ait le même avis que lui. Voilà, c'est les correspondances entre critiques du Masque et la Plume. Hein. Et à propos de Tarantino, toujours François Esquec de Paris réfute quant à lui l'idée qui avait été émise au cours de l'émission selon laquelle une novélisation ne produirait jamais un bon livre. Il y a une exception, nous dit cet auditeur, c'est Monsieur Arcadin, d'après Orson Welles, paru chez Gallimard en 55, un pur chef-d'œuvre, nous dit François Esquègue. Ce roman est aussi beau et palpitant que le film qui l'a inspiré. Et si la lecture de cette lettre dans votre émission donnait aux éditions Gallimard l'idée de le rééditer, je leur serais reconnaissant de m'envoyer une caisse de champagne. Voilà, donc j'ai gardé votre adresse, monsieur, et je ferai transmettre aux éditions Gallimard. Et on commence avec le prix Goncourt 2021, la plus secrète mémoire des hommes, co-publié par Philippe Rey et par Jim San, et c'est le quatrième roman de Mohamed M. Bougarsar, un Sénégalais de 31 ans qui habite Beauvais, dans l'Oise. Son personnage, Diegan Latirfaye, est un jeune écrivain sénégalais qui enquête sur un autre écrivain sénégalais, Tessé Elimane, qui eut son heure de gloire avant de disparaître sous les accusations de malfaçon. Elimane était l'auteur en 1938 du Labyrinthe de l'Inhumain, écrivain à qui la critique attribua le surnom de Rimbaud Nègre. Et avant qu'on découvre les plagiats dont ce labyrinthe était truffé, son auteur a fini par disparaître, à être effacé de la mémoire littéraire et considéré comme un faussaire non seulement en France, mais aussi aux États-Unis et même en Afrique. Personnage, vous l'avez compris, totalement imaginaire, mais inspiré d'un vrai écrivain, c'est le Malien Yambo Wologem, je ne sais pas si vous l'aviez lu les uns et les autres, récompensé par le prix Renaudot. Il avait été accusé d'avoir plagié Graham Greene et André Schwarzbart. Quant au roman de M. Bougarsar, ben, il mêle le récit, le journal intime, les articles de presse, les courriels, et c'est la poursuite d'un fantôme que le personnage va tenter de découvrir en voyageant à travers le monde et en rencontrant les femmes qu'il a aimées, et puis aussi en traversant l'histoire, puisque dans ce roman, il y a tout, il y a le colonialisme, il y a la Grande Guerre, il y a la Shoah. Alors, que pense le masque du prix Goncourt 2021 ? Je vais commencer avec Elisabeth.
Alors déjà, c'est un roman porté par une grande et puissante ambition romanesque. C'est vraiment un roman qui est habité par une foi très vive en la littérature. Et La plus secrète mémoire des hommes, le titre de ce roman, est emprunté en fait à un livre de Roberto Bolaño. C'est une phrase qui vient des Détectives sauvages de Roberto Bolaño. Et effectivement, Mohamed M. Bougarsar...
C'est une mise en abîme, là, si je comprends bien.
C'est une mise en abîme, et tout le livre, en fait, est un jeu de mise en abîme. C'est un labyrinthe, comme le livre de T.C. Eliman qui s'intitule Le labyrinthe de l'inhumain. Là aussi, on a affaire à labyrinthe de récits qui s'emboîtent de façon très fluide. Il y a un vrai hommage à différents auteurs, donc à Bolaño, je le disais, mais aussi à Gombrowicz et à tant d'autres. Il y a des scènes aussi qui peuvent rappeler Sartre. Et en fait, tout ce roman incarne la vision de la littérature qui semble être celle de Mohamed M. Bougarsar, à savoir que toute littérature est pillage, toute littérature se nourrit de tous les livres. Et c'est exactement ce que fait Mohamed M. Bougarsar ici.
Mais c'est ce qu'il écrit d'ailleurs. Toute l'histoire de la littérature n'est-elle pas l'histoire d'un grand plagiat ? Qu'eût été Montaigne sans Plutarque, La Fontaine sans Ésope, Molière sans Plaute, Corneille sans Guillaume de Castro, c'est peut-être le mot plagiat qui constitue le vrai problème.
Exactement. Non. Donc il y a beaucoup de théories en fait sur la littérature, parfois de phrases un peu définitives sur la littérature dans ce livre. Donc il faut pouvoir se montrer à la hauteur, et le livre n'est pas toujours à la hauteur de son ambition, je trouve, parce que déjà le style est souvent un peu ampoulé. Alors certes, il y a des formules un peu triviales qui viennent désamorcer ce côté un peu pompeux, mais tout de même. Et puis c'est un récit choral. Tu l'as dit, Jérôme, constitué de différents types de textes, à la fois des critiques de livres, des extraits de journaux intimes. Le problème, c'est que toutes ces voix ont la même voix, c'est la même écriture pour toutes ces voix. Donc ça, c'est un peu problématique. Mais hormis ces réserves-là, moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans le livre, c'est la façon dont Mohamed M. Bougarsar parle du statut de l'écrivain africain francophone dans le champ littéraire français, en disant que qu'il est toujours dans une sorte d'ambiguïté inconfortable, à savoir qu'il lui faut être à la fois authentique, vraiment africain, et en même temps pas trop, pour pouvoir espérer séduire un public occidental. Et ça, Mohamed M. Bougarsar le développe de façon très intelligente, très lucide, un peu féroce, et je trouve que c'est vraiment l'aspect intéressant de ce livre qui en contient énormément, peut-être un peu trop aussi.
Olivia ?
Oh ben moi j'adore. J'adore de vraiment, je n'ai aucune réserve. Je trouve que c'est vertigineux et que ça élève le lecteur, tant on se trouve devant une masse de questions qui touchent à la littérature et au travers d'un récit qu'on peut lire de plein de façons. On pourrait presque... Moi, je l'ai presque lu deux fois. On peut presque tirer un fil.
On peut lire presque deux fois. Comment c'est possible ?
Non. On peut. Non, bah parce que j'ai pas relu entièrement le livre. Mais on peut tirer une histoire, celle de l'enquête autour de cet écrivain, et donc sauter des pages pour aller plus vite vers la résolution. Et puis en même temps, il y a plein d'autres histoires qui se mêlent avec, je trouve, des voix différentes. Je trouve assez savoureux que tout le milieu littéraire français là s'extasie devant ce livre, alors que c'est un livre d'une cruauté contre l'édition française, mais vraiment abyssale. C'est-à-dire que tout le monde en prend pour son grade. Exactement, les écrivains qui écrivent avec trois mots, la critique pour laquelle tout se vaut, et j'ai beaucoup pensé à ton livre, Arnaud, les éditeurs qui fabriquent des produits marketés, une littérature qui est réduite à son sujet, en fait.
Compter ce qu'il dit des écrivains, qui sont très mauvais au lit, hein.
Ils sont tous très mauvais au lit, et dans leurs livres aussi, hein, d'ailleurs, très souvent.
Ça fait double peine.
on ne les connaît pas, ceux-là. Au milieu de tout ça, il y a effectivement cette question... Comment on peut être un écrivain africain ? Ça m'a fait penser à Dany Laferrière, écrivain que j'adore aussi, qui, pour répondre à cette question, avait écrit un livre qui s'appelait « Je suis un écrivain japonais ». Eh bien, parce qu'il en avait marre qu'on lui dise « Est-ce que vous êtes de Montréal, d'Haïti, de Paris ?»« Je suis un écrivain japonais ». Eh bien là, c'est une autre réponse à cette question. Et vraiment que je trouve, mais moi, j'ai marché, j'ai couru, j'ai aimé. Je trouve pas que ce soit pompeux, parce que dès que ça peut être pompeux, c'est drôle. Parce que c'est drôle non,
mais,
aussi.
Non, on a le droit de faire des critiques aussi,
oui,
on n'est pas obligé
sûr.
De...
C'est drôle, c'est féroce,
c'est tellement
cruel,
bien
c'est
qu'on
désespéré.
Commence à chipoter, en fait. C'est
ah,
ça,
oui,
le...
c'est ça, voilà.
Non,
bah,
c'est vrai. Hein. Bah,
mais c'est la grande force d'Elisabeth, c'est qu'elle est capable de chipoter, parce qu'en plus, elle est plus érudite que moi.
Oui, Arnaud, qu'est-ce que tu voulais dire ?
Tu vas chipoter ?
Non, c'est vrai que le livre est tellement bien que je vois, j'entends des critiques commencer à, effectivement, à chipoter, à dire, oui, les personnages féminins sont un peu faibles, un
ah
peu
non,
caricaturaux.
Ils sont géniaux, parce qu'il y a un peu une obsession sur la poitrine, quand même, de cette romancière
voilà,
sénégalaise. Donc, ça, c'est un peu trop insistant.
Voilà,
mais
donc,
je chipote encore.
Et
peut-être que je suis jalouse aussi.
Mais c'est parce que, à mon avis, le livre est tellement formidable qu'il faut bien commencer, effectivement,
ça
à lui trouver quelques...
Quelques
défauts. Ouais. C'est quand même le prix Goncourt le plus littéraire, sans doute, depuis Mathias Sénard, je pense. Vraiment un livre pas facile, hein, et, mais en même temps, en balance. C'est-à-dire qu'il y a quand même des ressorts romanesques assez formidables, qu'on va évidemment pas révéler, mais on est toujours surpris. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui pourrait s'enliser dans le verbeux par moment, et en même temps, non. Parce que il arrive à sortir des ressorts romanesques qui sont formidables. Quand même, cette histoire se passe sur un siècle, traverse trois continents. Les passages en Amérique du Sud avec Ernesto Sabato et Witold Gombrowicz, c'est absolument merveilleux. C'est une idée de la littérature universelle, puisque il est là, lui aussi, hein, cet écrivain, ce Rimbaud nègre, il est là avec eux. Pour une raison qu'on ignore et qui est absolument magnifique quand on la découvre, je trouve, hein, on s'y attend pas du tout. C'est pas du tout téléphoné. Justement, je trouve que il y a des passages extrêmement lyriques sur la littérature, notamment. C'est vraiment un livre métalittéraire, un livre sur la littérature, mais qui n'oublie pas quand même le plaisir du lecteur, des personnages et des situations. Et après, avec une réflexion sur ce que doit être la littérature africaine, sans tomber dans les clichés. Et avec ce, à mon avis, ce final merveilleux où soudainement la langue française, la plus précieuse parfois, la plus exigeante, est soudainement contaminée par le sérère, là, cette langue africaine qu'on parle au Sénégal, et on voit soudainement le sérère apparaître au milieu du français, et moi je trouve ça magnifique comme intertextualité, comme on dit aujourd'hui. Non, c'est un grand livre.
Ce qui est formidable, c'est qu'il est numéro un des ventes, évidemment, depuis le prix Goncourt, et que, on dit toujours que les énormes succès sont un peu des malentendus, mais quand je vois ce qu'ils vont découvrir comme nombre d'auteurs dans ce livre et de références, c'est vrai que c'est assez drôle. Et puis, il faut pas oublier qu'encore une fois, c'est une coédition franco-sénégalaise. On ne parle que de Philippe Rey, qui est un très bon éditeur, mais c'est Philippe Rey et Jim Sam, qui est une maison d'édition sénégalaise. Jean-Claude.
Écoutez, c'est un livre absolument prodigieux. C'est un livre prodigieux, enthousiasmant, excitant, décapant, tragique, envoûtant. C'est un livre monde, c'est un livre continent, c'est un livre somme, c'est un livre dont vous savez que vous le relirez. Vous savez aussi qu'il appartiendra définitivement à votre héritage de lecteur. Vous savez que ce livre-là rentrera dans votre vie. Voilà. Ça m'a fait penser... Enfin, moi, j'appelle ça l'effet Bob Beamon. C'est-à-dire qu'en 1968, l'effet Bob Beamon, aux Jeux Olympiques de 1968, il y a un sauteur en longueur qui est le premier qui arrive et qui saute 8,90 m. Et les autres vont être à 30 cm, n'arriveront jamais à faire ça. Et ils le savent tout de suite. Et illustration.
Et un beau garçon fait du saut en longueur.
Oui, mais ça ressemble à l'effet Bob Beamon. Et illustration de ce que j'avance, François-Henri Désérable, qui a le prix de l'Académie française et Sarre.
Dont nous parlerons bientôt d'ailleurs.
Il saute un peu moins loin.
Et Sarre était finaliste avec lui du Grand Prix de l'Académie française. C'est Désérable qui l'a. Et Désérable remercie évidemment les académiciens. Et il termine son discours en disant « Le plus beau livre de la rentrée, c'était pas le mien ». C'était celui de Mohamed Abdelsa.
J'admire
et j'ai envie son talent.
Le sport, c'est que Désérable est un ancien joueur de hockey, sur glace professionnel.
Bien sûr. Bien
donc
sûr.
Il s'y connaît en sport.
Bien sûr. Oui. Mais il y a cet effet-là. C'est-à-dire que quand tu nous as demandé à Nancy quel était notre prix Goncourt, personne n'a cité parce qu'on n'avait pas encore lu, mais quand on l'a lu, d'un seul coup, c'était ça l'effet Bob Beamon. D'un seul coup, il dépassait tout. Enfin, je veux dire, plus rien n'existait. J'exagère un peu, mais dire, il était tellement fort, ce livre. Alors, c'est en effet un acte de foi dans la littérature, tu l'as dit. C'est un éloge du style, c'est un manifeste pour l'imaginaire. C'est un livre continent avec tout un tas de ramifications et chacune est ouverte à toutes les interprétations. Et on a parlé de tous les différents registres qu'il utilise dans ce livre. Il est virtuose dans chacun de ces
c'est
registres.
C'est donc la plus secrète mémoire des hommes. Le prix Goncourt, co-publié par Philippe Rey et Jim Sand. C'est signé Mohamed M. Bougarsar. Et puisqu'on parle des prix, je vous rappelle, mais vous le savez tous, que le prix Femina est allé un livre qu'on adore, Olivia et moi, qui est le livre de Clara Dupont-Monod, s'adapter chez Stock. Que le prix Médicis a été décerné à Christine Angot pour Le Voyage dans l'Est, dont Le Masque a dit le plus grand bien dès le mois d'août, d'ailleurs, dans mon souvenir. Le prix Renaudot est allé à Premier Sang d'Amélie Nothomb. Et enfin, le prix de Flore, n'est-ce pas? Arnaud Vivian, qui en est un des jurés, est allé au Voyant des Tempes d'Abel Quentin, dont on a dit le plus grand bien il y a quelques
semaines. Qui n'est pas sans ressemblance.
Et qui n'est pas sans ressemblance avec le prix Goncourt, qui pourrait même être un peu la face inversée.
Oui, la face B, ou le voilà.
Avec aussi un roman en mise en abîme littéraire. Allez, on passe à la carte postale d'Anne Berest chez Grasset, un gros roman, 528 pages, Jean-Claude, qui a figuré dans le dernier carré de la sélection Goncourt, après avoir traversé un automne tempétueux. J'en rappelle vite les faits à nos auditrices et auditeurs. Camille Laurence Juré Goncourt a consacré à ce roman une chronique assassine dans Le Monde et favorisé l'entrée dans la sélection des Enfants de Cadillac et le roman de son compagnon François Nudelman, qui traitait du même sujet, la Shoah. Camille Laurence fut accusée évidemment de conflit d'intérêts et de vouloir discréditer le roman d'Anne Berest en écrivant notamment « Elle entre jusque dans la chambre à gaz avec ses gros sabots à semelles rouges ». Allusion évidemment à ce qu'avait pu écrire Anne Berest auparavant sur la vie parisienne. Dans ce roman enquête, Anne Berest à partir d'une simple carte postale et avec l'aide d'un détective privé et d'un criminologue part à la recherche de ses aïeux morts à Auschwitz en 1942. Ses aïeux, ce sont les Rabinovitch, partis de Russie et arrivés en 1929 à Paris via la Lettonie et puis la Palestine, et enfin Paris, donc, où ils seront bientôt fichés juifs étrangers. Cette carte postale d'Anne Berest, encore une fois, qui a frôlé le Goncourt, qu'en pensez-vous, Jean-Claude?
Ah ben c'est un livre formidable. C'est quand même fâcheux que cette querelle ait eu cette conséquence-là. C'est-à-dire que Anne Berest a échappé à tous les prix littéraires et c'est quand même très très fâcheux parce que c'est quand même un des très grands livres de cette rentrée. C'est un roman vrai, c'est un récit historique, c'est une enquête contemporaine, c'est un polar initiatique. Elle part à la recherche de l'origine de sa famille et puis surtout le ressort narratif de cette carte postale est absolument fantastique, mais fantastique à tous les sens du terme. C'est-à-dire qui en même temps est assez effrayant. C'est-à-dire quand elle cherche qui a pu écrire, est-ce que ça fait, ce que ça soulève de questions. Donc c'est l'exploration d'une généalogie familiale mouvante, avec cette famille de juifs errants qui va traverser toute l'Europe et qui surtout ne pourra jamais réellement s'installer, être toujours obligée de repartir très très vite. Elle parle très très bien comme ça de l'incrédulité des futures victimes, de quand le garrot comme ça se resserre, des réactions des uns et des autres, des lucides, des inquiets, les trop confiants. Et puis c'est un livre terrible sur la méticulosité effarante, effroyable, rationnelle de la solution finale et de sa mise en œuvre en France, sur l'organisation des rafles, sur le zèle des autorités administratives et de la police française, sur la responsabilité de Vichy et de Pétain en particulier, dans la mise en place de cet enfer sur Terre.
Mais je voudrais dire que Vichy les avait protégés.
Oui, alors justement, je voudrais dire que ce livre est l'antidote absolu de ce que raconte Zemmour et de sa petite propagande, sa petite musique révisionniste sur Pétain, protecteur des juifs français. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est aux débatteurs qui adorent faire venir Zemmour à la télé, parce que la télé adore le faire venir, c'est de placer le livre d'Anne Berest sur la table des discussions et de renvoyer Zemmour à la lecture de ce livre. Car tout y est. Il y a une énorme documentation. Et cette énorme documentation, t'as parlé d'un détective, t'as parlé d'un criminologue, mais l'énorme documentation vient de sa mère qui a accumulé pendant des années les preuves de tout ça. Deux ou trois choses quand même sur des détails qu'elle donne.
Il faudrait que tout le monde s'exprime. Jean-Claude. Olivia.
Moi, j'aime énormément ce livre. Je trouve qu'il est très bouleversant. Au centre du livre, il y a quand même la phrase de sa petite fille à l'école, la petite fille de l'auteur, qui lui dit qu'elle a entendu cette phrase. Donc, à l'école, on n'aime pas trop les juifs. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est la transmission de justement qu'est-ce que c'est que d'être juif. Et donc, cette enquête est menée par un duo d'enquêtrices géniales, qui est constituée par Anne et sa mère. Elle cherche qui a écrit, qui a envoyé cette carte postale. Et ce duo est génial. Parce que je rentre dans cette histoire pour ne pas redire tout ce qu'a dit Jean-Claude,
raison. Deux autres critiques vont dire après toi.
Vraiment, ce duo d'enquêteurs explore toutes les ambiguïtés des relations qu'on peut avoir avec sa mère. Et je trouve que ça, c'est très réussi. Et puis alors d'un côté, vous avez l'histoire familiale en Russie avec ce patriarche un jour, et c'est un écho à la phrase de la petite fille qui dit un jour, on va tous faire en sorte, vouloir qu'on disparaisse. Et entre les deux, vous avez cette histoire familiale. Moi, je trouve que elle arrive à incarner tous ses ancêtres de manière vraiment géniale, et notamment sa grand-mère, qui est le personnage de la survivante. Comment on fait pour survivre quand ses parents, son frère, sa sœur sont morts en déportation? Enfin, je trouve que c'est un livre riche, beau, intelligent, qui nous emmène jusqu'à chez Duluc, l'agence du film de François Truffaut. Et moi, j'adore tout, en fait.
Et voilà. Des romans de Modiano. Arnaud.
C'est une nouvelle génération qui s'exprime sur la Shoah et sur. C'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est pas du tout ce qu'on a. Il y a quand même beaucoup de livres sur le sujet, y compris d'ailleurs celui de François Nudelman, justement,
qui avait paru chez Gallimard,
qui est dédié à CL. Moi, quand j'ai lu dédié à CL, je pensais que c'était Clara Luciani, mais en fait non, c'était Camille Laurence. J'aurais jamais pensé que ça pouvait être Camille Laurence, mais donc Anne Berest. Et je pense que Camille Laurence, mais j'adore cette critique par ailleurs, qui est vraiment, je trouve, ça, le Monde a trouvé quelqu'un.
Enfin, ce papier était inadmissible. Enfin,
on peut pas. Non, c'est plus que fâcheux, c'était
qu'elle
dégueulasse.
Dans ce papier,
non,
était dégueulasse.
Non, mais je pense que sur ce livre-là, elle s'est trompée. C'est qu'elle n'a pas vu précisément que c'était, encore une fois, je trouve, une nouvelle génération qui s'empare de ce thème-là et qui écrit de manière totalement différente cette quête et ce rapport à la Shoah. Et c'est ça qui, à mon avis, est intéressant dans ce livre. C'est une, j'ai envie de dire, presque une manière moderne de parler de la Shoah. Voilà.
Oui, mais c'est vrai, enfin, sans vouloir revenir sur le débat Camille Laurence-Anne Berest, mais c'est vrai que moi, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très beau travail de mémoire, qu'elle donne vraiment vie à ces quatre personnes, ces quatre noms sur la carte postale qui sont.
Qu'elle avait
des...
commencé à faire avec sa sœur quand elle avait fait Gabrielle.
Exactement.
Leur aïeul à toutes les deux. La sœur
Claire Berest.
Et elle redonne vie à ces quatre noms, elle leur donne une dimension, une épaisseur, ces quatre noms qui n'étaient que des fantômes, des D-books qui venaient la hanter sans qu'elle sache vraiment pourquoi, puisque c'est une histoire qui ne s'est pas transmise. La principale témoin, la grand-mère, n'a rien dit, a gardé le silence. Et donc ce livre-là vient combler le silence. Après, c'est vrai que même si je l'aime, ce livre, il m'a beaucoup émue, si j'étais très touchée par l'enquête et notamment la relation avec cette mère qui est formidable, qui enchaîne les cigarettes, Anne Berest touche à un tabou qui est la représentation des chambres à gaz et l'intérieur des chambres à gaz. C'est vrai que c'est le tabou ultime. On se souvient de la polémique autour
aussi
du
bien
film
au cinéma
de Spielberg,
que dans la liste
de Schindler.
Oui, parce que c'est la porte ouverte au révisionnisme, précisément.
Exactement.
C'est que si on fait rentrer la fiction dans les chambres à gaz, les révisionnistes vont dire bah, vous voyez bien, c'est
alors
du
même
pipo.
Qu'elle écrit à un moment donné de son livre, imaginer n'est parfois pas possible. Et c'est vrai que sur ce point très précis, on aurait aimé qu'elle n'imagine pas, qu'elle s'en tienne à cette phrase, imaginer n'est parfois pas possible. Mais après, c'est quelques lignes dans le livre. Et tout de suite, il y a la mort de son arrière-grand-oncle et de son arrière-grand-tante. Et à chacun, elle consacre une page. Il y a quelques lignes pour la mort du grand-oncle, quelques lignes pour la mort de la grande-tante. Et sinon, c'est une page blanche tout autour. Et je trouve que ce procédé qui est tout à fait minimaliste, pudique, est magnifique. Et pour moi, ça sauve un peu cette... Maladresse, c'est peut-être un mot un peu faible pour parler du tabou et de ce qu'elle fait là en racontant
c'est
le...
C'est vraiment franchir la ligne jaune et
oui.
Quand même, il y avait une espèce de raison collective qui disait ça, il faut...
On, ça, on c'est pas possible.
Voilà. Mais encore une fois, parce que c'est la porte ouverte au négationnisme. Mais en revanche, il y a des choses beaucoup plus intéressantes comme la théorie des prénoms qui explique le refoulé de l'histoire par
qu'elle
les prénoms.
Emprunte à Daniel
ça...
Mendelssohn, qui est aussi une sorte d'influence très présente dans le livre, l'auteur des Disparus. Et il y a des gens qui ont comparé Anne Berest en disant mais c'est pas du niveau de Daniel Mendelssohn. Mais justement,
c'est
moi,
pas
ce que
un
je
problème
trouve...
de niveau, exactement. À mon avis. Voilà, c'est un
je suis d'accord. Ce que je trouve très beau dans le livre et touchant, c'est ce mélange de candeur, de naïveté et de très grande gravité chez Anne Berest. Et je trouve que c'est ce qui fait tout le. On peut pas parler de charme pour un sujet aussi grave, mais c'est ce qui fait la beauté particulière de ce livre.
Son originalité, on va dire.
Oui, sur cette histoire de tabou, faut quand même un petit peu avancer, parce que ce soit les révisionnistes qui maintenant commandent à la littérature ce qu'elle doit faire, et par ailleurs, rentrer dans les chambres à gaz et essayer d'imaginer ce qui s'est passé, c'est aussi accompagner les morts. Et je veux dire, je vois pas pourquoi on les abandonnerait à la porte des douches, sous prétexte qu'on n'aurait pas le droit de représenter ce qui s'est passé. Moi, je trouve ça très beau, très bouleversant, que justement elle accompagne les morts et qu'elle essaie d'imaginer ce qu'a pu être cette tragédie absolue.
Enfin, la question se pose quand même.
Mais elle s'est posée
de manière très cruelle au cinéma.
Mais je sais bien.
Bien
je
sûr,
sais
mais
bien.
En aucun cas, ces quelques lignes maladroites ne.
Mais elles sont pas maladroites.
Ne disqualifient en tous les cas. Moi, je trouve la beauté du livre et surtout n'autorise Camille Laurence à avoir fait cette critique assassine qui a tout changé le destin du livre dans les prix, qui a fait qu'on l'a regardé d'une façon bizarre. Moi, je l'ai lu bien avant cette critique et vraiment, j'étais très mal à l'aise pour la future lecture de ce livre des gens qui ne l'avaient pas lu à l'époque de la critique de Camille Laurence.
Non, mais qu'elle ait pâti de ça est insupportable.
Alors que vraiment, je trouve que c'est un travail tout à fait remarquable.
Et puis on a le droit de ne pas aimer, mais simplement les arguments qui étaient utilisés n'étaient pas du niveau du tout de la critique littéraire. La carte postale, oui. Anne Berest, c'est chez Grasset. Allez, on change d'univers totalement avec Les Flammes de Pierre de Jean-Christophe Ruffin, premier de cordée chez Gallimard. C'est ce qu'on appelle un roman de montagne. Vous êtes montagnards les uns et les autres ici, là?
Oula, non.
Non, aucun.
Aucun. Oula.
Oh, c'est moi, j'adore.
Je croyais que t'étais la mer, toi, plutôt.
Ah, bah, c'est la même chose, la mer et la montagne.
Ah bon, d'accord. J'aurais tout entendu dans cette émission. L'auteur, son vieux copain d'aventure, Sylvain Tesson, Cathy, dont l'aïeul Joseph Simonde fut un grand alpiniste. Dit-on. Et Daniel, un grimpeur exceptionnel, escalade un jour l'aiguille de la République. Vous savez ce que c'est que l'aiguille de la République? C'est au-dessus de Chamonix. Non, ça vous dit rien? Pour vous, l'aiguille de la République, c'est quoi? C'est l'Élysée, c'est ça, non? Surpris par la nuit et en mauvaise posture, il faut dire, ils sont sauvés par leur guide Rémi, alias, je cite, le gigolo des neiges, dont l'histoire d'amour avec Laure, une financière parisienne blonde et glaciale, c'est un peu pléonastique, je sais bien, va donner à Ruffin le sujet de son roman dans un décor, la montagne, dont il écrit qu'elle ne tolère pas le mélodrame. Alors là, je cite Ruffin, « En montagne, il n'y a pas d'absolu qui ne soit construit sur l'évidence de l'éphémère, pas de conquête qui n'ait en même temps fait éprouver des limites, pas de bonheur, qui ne trouve son relief dans la souffrance et dans la mort. » Jean-Christophe Ruffin, qui parallèlement publie aussi, il est très prolifique, « Montagnes humaines » chez Artaud, qui est un livre d'entretien où il est encore question, évidemment, beaucoup de montagnes. Arnaud?
Oui, alors, je l'ai escaladé, ce livre. Hein, c'est là, c'est justement, il faut y aller au piolet, là. Faut grimper. Au départ, il y a une idée, je trouve, hein, qu'il explique dès les premières pages, c'est que tous les romans sur la montagne, en général, racontent une catastrophe, quelque chose qui se passe mal. Et donc, il voulait faire le contraire. Il voulait faire un roman où tout se passe bien, ce qui n'est pas, il n'a pas tout à fait réussi, d'ailleurs, parce que tout ne se passe pas si bien, malgré tout. Et c'est une histoire d'amour à trois, en fait. Hein. C'est un homme, une femme et la montagne. Donc, ils ont des problèmes, parce que à trois, ça marche difficilement. Comment vont-ils réussir à bâtir cette histoire à trois? Je résume. Donc, au début, il y en a un... ils sont deux, puis il y en a un qui est à l'écart. Après, il y en a une qui est à l'écart et les deux sont ensemble. Puis, finalement, mais alors, comme même, il va se passer pas mal de trucs, ils vont finalement se retrouver à la fin, tous les trois, et ça va hyper bien se passer entre trois, c'est-à-dire la montagne, la financière et le gigolo des neiges. Et, ok. Alors, il y a la partie à Paris où ça se passe pas bien du tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes, à part la montagne Sainte-Geneviève, qui est à peu près, moi, la seule que j'ai jamais escaladée de ma vie, c'est la montagne Sainte-Geneviève.
Non, il y a les buts de Chaumont, que t'as escaladé quand même.
Oh, même, non,
même pas.
Bon, les buts de Chaumont, là, quand même. Et, je vois qu'ils vont s'entraîner à Fontainebleau, ça y est, rien que ça, ça me fait peur, même. La montagne Sainte-Geneviève, il y a quand même pas mal de relais, déstaminés où on peut faire des pauses avant d'arriver au sommet. Donc là, on fait beaucoup de pauses aussi avant d'arriver au sommet. Personnellement, je suis même pas sûr de l'avoir atteint.
Jean-Claude?
Ah, écoutez, il a pris un risque, parce que escalader le genre roman de montagne, c'est un genre casse-gueule. Hein.
Bah, qui ne se fait plus, objectivement.
Oui.
Ça ne se fait plus.
Non, ça se fait plus, mais bon, ça se fera peut-être. Mais en tout cas, il en connaît tous les
écueils. Mais il y a toujours des romans de mer, il y en a encore beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de romans de montagne.
Non, mais il est lui-même. Il sait d'entrée, il connaît tous les écueils de ce genre casse-gueule, puisqu'il énumère dans le livre d'entretien dont tu as parlé, dans Montagnes humaines, les écueils du genre. Donc il dit soit... C'est des livres très documentés, les romans de montagne, mais écrits par des vrais montagnards, et donc la dimension littéraire est plutôt faible, soit par des écrivains, mais qui sont naïfs et qui ne connaissent pas la réalité. Donc il essaie de faire une synthèse, et il essaie de se mettre entre les deux pour réussir quelque chose. Le problème, c'est que comme tu l'as dit de façon très amusante, il l'a un peu loupé. C'est-à-dire que la première, c'est en quatre parties. La première partie est très appliquée, très sentencieuse pour évoquer la montagne, mais quand même avec une forme de contemplation admirative et inquiète du genre, on risque sa peau là-haut, c'est la plus extrême des confrontations, c'est l'épreuve de vérité. Bon. Ensuite, il y a l'épisode parisien. C'est-à-dire que le gigolo des montagnes, il va chercher sa fiancée. Il se pointe à Paris sans avoir prévenu. Et là, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que le choc des mondes, là, c'était quand même un peu du n'importe quoi littéraire.
J'aimerais t'y voir.
Tout se relâche. Le style, l'intérêt, la pertinence du propos, le roman Sabachi devient commun, banal. Il y a une sorte de surcharge des descriptions. Ça va bien pour la montagne, mais une fois qu'on est à Paris, ça va. Les descriptions, enfin, il y a une surcharge. Après, il se ressaisit dans la troisième partie. Il y a un accident. Qui n'est pas celui que vous pouvez parce qu'il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté sur le terme d'accident.
Heureusement qu'il n'y a pas cinq parties, hein,
Et alors là, il parle des accidentés et des handicapés, et ça sonne juste. C'est-à-dire que là, le médecin reprend le pouvoir, et le médecin romancier sait de quoi il parle. Et là, c'est sans doute la partie la plus réussie, la plus percutante du livre. Mmh. Et la dernière partie est en effet à peine crédible et tout ça. Et alors, il y a un procédé romanesque qui est assez ridicule. C'est qu'à un moment, la financière, là, elle a eu une copine qu'elle a perdue et tout ça. Et alors, elle a son double comme ça qui vient la hanter. Et là, c'est carrément grotesque. Quoi.
Olivia.
Moi, je ne peux pas dire du mal d'un roman qui se passe dans des endroits que j'adore, parce que j'adore la montagne, j'adore Chamonix, j'adore Argentières.
T'adores l'Aiguille de la République ?
J'adore l'Aiguille de la République, j'adore l'Aiguille du Midi, c'est toute mon enfance. Et mon adolescence, ce sont les guides. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre...
Non, mais ta vie privée ne nous concerne pas. Hein. Ta relation avec les guides ne nous concerne pas.
Les guides de montagne... Le livre, c'est un grand mélodrame. Moi, je trouve, contrairement à ce qu'il dit, c'est une sorte de mélodrame, comme s'il redonnait un peu ses lettres de noblesse au roman populaire d'amour, avec deux personnes qui sont évidemment pas du tout faites pour s'entendre.
Oui, c'est ça, c'est du Harlequin dans la
cliché,
poudreuse.
Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Mais ce qui est... c'est un peu convenu. Évidemment, le guide qui est magnifique à la montagne parce qu'il est plus bronzé que tout le monde, il porte les vêtements de guide. Je ne peux pas croire que dans cette salle, personne adolescente n'a fantasmé sur le vêtement du guide de montagne. D'ailleurs, il y a une petite phrase que j'adore pour montrer que ce garçon a son snobisme à lui. Il aurait préféré s'enrouler dans un sac poubelle plutôt que de porter des vêtements de montagne de la grande distribution. La manière dont, je trouve, il raconte comment tout d'un coup le guide de montagne, sexy, bronzé, devient une sorte de mâle blanc atroce dans la ville, me semble assez amusante. Moi, j'ai été jusqu'au bout.
Un rien t'amuse.
Un rien m'amuse. Moi, j'ai été jusqu'au bout. J'ai trouvé que c'était, oui, un mélodrame avec tout ce qu'il faut d'accident. Et puis, il y a quand même un grand épisode dans une tempête de neige qui, moi, m'a enchantée.
Elisabeth.
Oui, niveau tempête de neige, moi je préfère celle d'Hans Castorp dans La Montagne Magique. Je trouve ça beaucoup plus animé à la limite que ces Flammes de Pierre où Jean-Christophe Ruffin a certainement voulu nous faire éprouver les vertiges de l'amour, mais où il atteint des sommets de niaiserie. Enfin, c'est vraiment le roman Harlequin. Alors ici,
mais
beaucoup...
parce que le personnage est innocent et naïf.
Mais tout est convenu, c'est insupportable. Et pour nous montrer qu'il passe, que vraiment ce pauvre Rémi, ce gigolo des neiges, a vécu quelque chose de terrible dans son âme et dans son cœur, eh bien, il a troqué ces vêtements fluo si magnifiques et que tu aimes tant, Olivia, pour des vêtements neutres et sans marque. Non, mais c'est insupportable.
Bah oui,
et
alors, un guide ne peut pas mettre un costume
gris. Et c'est
gris.
Pas parce qu'on met des adjectifs de couleur dans chaque phrase qu'on fait de la littérature. En plus, il y a des formules qui se répètent parce qu'il doit en être très content un moment. Il y a des trucs, mais l'Athanor de son cœur. Mais comment on peut écrire ça? Non, vraiment. Alors, il cite énormément Frison Roche. Mais alors là, on a la roche sans le frisson. Enfin, c'est vraiment, c'est bourré de clichés.
C'est long.
C'est une épreuve.
Pied qui gèle. Pour non, que ça mais soit c'est vraiment totalement à mon goût.
Il me semble qu'on a dit l'essentiel. Moi, je veux bien qu'on continue, mais il y a des limites quand même. Ça s'appelle Les Flammes de Pierre.
Non, mais j'aime pas la montagne aussi. C'est peut-être pour ça.
Ça s'appelle Les Flammes de Pierre. C'est chez Gallimard et c'est signé Jean-Christophe Ruffin, quelques indélicatesses du destin, histoires et interludes.
C'est un recueil de nouvelles traduites chez Rivage par Hélène Frappa et signé Laura Morante, oui, la grande actrice italienne, muse notamment de Bertolucci et de Nanni Moretti, et qui se met à écrire, oui, on peut le dire, sur le tard. Ici, 8 contes rythmés avec des interludes musicaux où il est question d'adultère, de trahison, d'amour, d'amitié qui vacille, d'anorexie, de rapports de classe entre deux adolescentes, de culpabilité. Là, je cite, d'instructions pour dépasser une petite vieille, on dirait du Desproges. Et même, je cite toujours, de la tristesse pour une courgette. Étrangement, ce qui m'a troublé, c'est qu'il n'y a presque pas, sauf à un moment donné, au deuxième degré, pas trace de cinéma dans ce livre de Laura Morante. Pas un tournage, pas un cinéaste. Il y a une petite évocation à un moment donné. Qu'en pensez-vous, Elisabeth ?
Alors, il y a beaucoup de charme. C'est pas évident quand même de se lancer en littérature avec des nouvelles, parce que c'est vraiment un genre extrêmement difficile. Et en plus, des nouvelles qui portent sur des choses très ténues. Et pour ça, il faut avoir vraiment sacrément confiance en son style. Alors, elle tente beaucoup de choses. Elle tente différents genres. La première nouvelle a presque quelque chose de théâtral. Il y a beaucoup de parenthèses qui sont comme des didascalies. Il y a des choses qui ressemblent à du conte. Il y a ces petits interludes avec des partitions musicales. Bon. C'est mignon, il y a de la fantaisie, mais alors c'est lesté. Non, mais c'est lesté par un style parfois un peu lourd. C'est truffé d'adverbes, il y a des constructions alambiquées. Je ne remets pas du tout en cause la traduction d'Hélène Frappa, qui est une très bonne romancière. Donc je pense que c'est pas du tout de son fait. Je crois que c'est comme ça, c'est très très lourd. Et moi, j'ai, par exemple, tu faisais allusion à ce petit interlude avec cette histoire de dépasser une petite vieille dans la rue. Mais alors ça, moi, je devenais folle. Ça piétine. Bah, je disais, mais quel est l'intérêt?
Dépasse-la.
Oui, c'est ça. Non, j'ai dépassé les pages.
Même la courgette aussi, c'est très long. Hein,
c'est très long, la courgette. Non, tout est assez long. Alors, les personnages boivent beaucoup, on aimerait bien.
Franchement, c'est vrai.
Alors, on sait tout sur les guides et de haute montagne. Et Olivia, raconte-nous ton histoire avec la courgette.
Mais non, mais en ce moment, tout le monde, il y a de la courgette partout. Vous allez au restaurant, je sais pas, il y a une espèce de mode autour de la courgette. Il y a la courgette et l'aubergine. C'est quand même deux légumes.
Non, mais on avait adoré ma vie de courgette, par exemple.
Absolument insupportable. Et on en trouve partout en ce moment. Mais là, franchement, c'est long. C'est long.
Et pourtant, c'est des nouvelles. Non, j'ai bien aimé le conte, l'histoire du Hongrois, qui a un côté un peu Mittel Europa. Et comme son écriture, en fait, est extrêmement abstraite, ça fonctionne pour un conte. Mais pour le reste, c'est très difficile.
Et puis,
difficile.
Pourquoi tout d'un coup, elle s'est mise à avoir besoin d'écrire?
Oui.
Arnaud.
Non, là, en fait, on se demande pourquoi elle a voulu écrire. Et on a le sentiment, justement, parce que tu as raison, Elisabeth, la nouvelle, c'est très difficile. Et que elle s'est dit que ça allait être facile. Et c'est ce sentiment-là qu'on éprouve le plus. On ne voit pas les personnages, alors que dans la nouvelle, il faut les voir tout de suite, immédiatement, en trois mots. Ça reste totalement, même pas des silhouettes, mais des effets de langage. Et elle ne dépasse pas le stade de l'effet de langage. Elle n'est pas dans l'écriture, en réalité. Elle raconte, elle a une petite idée d'histoire qui est pas mal, mais quand même pas exceptionnelle non plus. Et voilà. Et donc, elle tire le fil. Non, franchement.
Et il n'y a pas une montagne, hein. Il n'y a pas une seule montagne dans tout le livre.
J'adore tellement cette actrice.
Ça, on l'adore tous, hein. Olivia.
Ben je ne sais pas, je n'ai pas compris, je l'ai entendue chez Augustin Trapenard, j'ai trouvé qu'elle était lumineuse, brillante.
Mais elle est toujours lumineuse et brillante.
J'ai ouvert le livre avec volupté, et alors là, c'est une sorte de chose vieille. Ouais. C'est extrêmement démodé, je trouve, en fait. Voilà, c'est démodé. On dirait au théâtre ce soir, comme les gens qui surjouent, qui mettent les mains sur les hanches et qui disent « Ah, ben alors, qu'est-ce qui se passe, là ?» Vous voyez, c'est un peu comme ça.
C'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra.
C'est dommage. Je comprends vraiment pas. Et alors, j'ai presque eu un problème moral avec la première nouvelle de cette femme dont la meilleure amie, elle découvre que sa meilleure amie a un amant. Bon. Et alors, c'est un énorme problème. Parce que peut-être parce qu'elle est amie avec le mari de la dame. Ok. Et alors, je sais pas. J'ai trouvé que même le propos était presque gênant. De se dire que c'était vraiment si grave d'avoir un amant ?
Franchement.
Et on n'est même pas à la montagne. Hein. Non, les petits interludes, alors j'ai trouvé ça grotesque. Non, j'ai pas compris pourquoi tout le monde.
Je pense que là aussi, on a presque dit l'essentiel. Jean-Claude.
Moi, j'accorde juste une chose, le titre est bien. Moi, j'aime bien le titre.
Quelques indélicatesses du destin, je le rappelle.
Oui, parce que c'est vrai que le destin n'est pas toujours très délicat, donc on peut
un peu
lourd.
C'est la
première histoire qui m'a intéressé, celle que tu viens de décrire, parce que c'est un vertige d'hypothèse. Alors, c'est assez intéressant. Là, je trouve que c'est la seule nouvelle réussie. Après, tout le reste, c'est réglé. Mais moi, surtout, j'ai eu une expérience physique avec ce livre.
C'est la soirée des confidences.
Oui. Oui. Et si vous m'autorisez à la raconter, je veux bien la raconter.
Si c'est bref, ça va, parce qu'on a encore un livre à
évoquer.
Oui,
mais je vais essayer de la faire courte. Et moi, j'arrêtais pas de décrocher. J'avais la sensation du saphir, vous savez, sur les tours de disque, du saphir qui sautait sans arrêt sur les
tours de disque. Tu as encore un tour de disque.
Oui.
Tu as un TEPAS.
En tout cas, j'espère que ça parlera pas aux plus jeunes, ils se le feront expliquer par leur prof, mais c'est le saphir qui sautait sur le micro-sillon, donc tu revenais toujours sur la même chose. Je n'arrivais pas à me concentrer, je n'y arrivais pas. Les phrases glissaient tout le temps, c'était sans aspérité, le style est introuvable. Les histoires sont confuses et comme vous, je me suis posé la question de la nécessité et le pourquoi de ce livre.
Quelques indélicatesses du destin, vous n'êtes pas très délicat. Hein. C'est signé Laura Morante, je profite de ce livre pour vous rappeler que, comme chaque année, je vous propose de voter pour le 32e prix des auditeurs du Masque et la Plume et de nous adresser, s'il vous plaît, sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr, à la page Réagir, le film français et le film étranger que vous avez préféré au cours de l'année 2021, et cela jusqu'au 20 décembre. Et nous fêterons vos résultats en début d'année prochaine. Allez, on termine avec Rien à déclarer. Recueil de 10 nouvelles du grand écrivain américain Richard Ford, 77 ans, qui paraît aux éditions de l'Olivier dans une traduction de José E. Camoun, un recueil très cosmopolite et très mélancolique qui se passe à Dublin, à Paris, à New York, en Islande ou dans le Michigan. Et dans la première nouvelle qui donne son titre au livre, un homme croise à la Nouvelle-Orléans une femme qu'il a aimée autrefois quand ils étaient à la fac. Plus loin, des amis se réunissent après la mort de l'un d'eux et déterre de vieilles querelles. Un avocat prend le bateau pour l'Irlande, des couples séparés se reforment, des veuves et des veufs affrontent la solitude. La vie, ce sera ça désormais, dit d'ailleurs un des personnages. Un catalogue, point, les conversations, les rencontres, les gens, les départs, les arrivées, les choses qui passent, rien d'effroyable. Richard Ford, rien à déclarer, donnez-moi des bonnes raisons de lire ce recueil de Richard Ford. Jean-Claude.
Bah, c'est le chroniqueur des regrets, quoi. C'est le mémorialiste des vies inabouties, des élans suspendus, de la sourde mélancolie, des indécis. C'est le romancier du SI. Tous les personnages refont leur vie ou sont veufs. Ils sont toujours dans un entre-deux. Ils boivent beaucoup pour essayer de demeurer entre deux eaux, pour desserrer un peu l'étau de la lucidité qui est prête. C'est le roi de la précision dans l'imprécision. C'est-à-dire que ces personnages sont flottants, hésitants, tout le temps ballottés par les circonstances et les rencontres, et il est d'une précision sur l'imprécision de tout ça qui est absolument remarquable.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas les lire, je pense, pour ni le suspense, ni l'intrigue.
Non. Et d'ailleurs.
Mais il faut le préciser avant, c'est des nouvelles d'un impressionniste, je trouve.
Voilà. Et d'ailleurs. Américain. Et d'ailleurs, chaque fin de nouvelle est abrupte. C'est-à-dire qu'il laisse ses personnages suspendus, il laisse en blanc, il les abandonne sur place.
Oui. C'est des pointillés.
Voilà, c'est ça.
C'est tout sauf des nouvelles à chute.
Oui.
C'est qu'il prend les personnages au milieu, Olivia, et il les laisse au milieu. Moi, je trouve que c'est génial. Parce que c'est le livre le plus déconcertant du monde. C'est-à-dire que les situations sont complètement inattendus et les personnages font toujours le contraire de ce qu'on attend d'eux. Sans que ce soit bizarre ou incompréhensible, c'est juste qu'ils prennent des directions totalement inattendues. Moi, je trouve que c'est ça qui est beau, parce que c'est que tu dis que c'est crépusculaire et mélancolique, mais c'est pas triste. C'est un livre sur apprendre à perdre sa femme, son mari, ses espérances, son innocence. Mais finalement, est-ce que c'est grave ? Peut-être que non. Alors, il y a des descriptions. Il est obsédé par les chaussures des femmes. Moi, ça m'enchante.
Les pantoufles roses.
Oui. Et on pourrait croire que c'est très cruel, très cynique, mais non. Il y a une humanité. Il y a une phrase, moi, qui a fait mon année. Dans toutes les circonstances, ou presque, quand on pleure, c'est qu'il aurait fallu pleurer plus tôt. Et moi, je pense que c'est la vie. Mais vraiment, je trouve que c'est extraordinaire.
Il ne faut pas oublier de dire que c'est en plus un style volontairement simple. Il n'y a jamais de préciosité. Je veux dire qu'il va, il va vers le sentiment sans utiliser. Il y a très peu d'adjectifs dans le mauvais sens du terme.
Oui, très peu. Ça, et pas d'adverbes. Et...
Elisabeth.
Oui, rien à déclarer, c'est ce qu'on dit à la douane. Et c'est vrai que tous ces personnages se retrouvent à une sorte de frontière, en fait, une frontière d'un tournant dans leur vie. Et ils sont à un moment où ils font le bilan de leur existence. Et un peu comme c'est la pesée des âmes, quoi, avant de traverser le Styx. D'ailleurs, les fleuves, la mer sont très, très présents dans les nouvelles. Et contrairement à ce que pouvait écrire Fitzgerald, qui est un modèle pour Richard Ford et qui est souvent cité d'ailleurs dans les nouvelles et qui écrivait dans La Fêlure que toute vie est une entreprise de démolition, on n'a pas du tout cette vision désespérée de l'existence chez Ford. C'est plutôt que la vie, c'est une série d'ajustements mineurs. Il emploie un moment cette expression dans une des nouvelles que j'aime énormément, qui est celle d'un homme qui vient de perdre sa femme, qui s'est suicidée, et il décide de retourner dans le lieu de vacances où ils allaient ensemble, mais pas dans la maison où elle a mis fin à ses jours, mais dans une petite bicoque à côté. Et c'est une nouvelle très étrange parce qu'il y a un suspense, il y a une menace comme ça un petit peu latente qui plane, et puis il y a cet homme qui fait face quand même à une tragédie immense et qui va justement faire des ajustements mineurs. Et toutes ces nouvelles, ce sont des personnages confrontés à des pertes, à des deuils, mais qui apprennent à faire ces ajustements mineurs, et c'est porté par l'écriture majeure, le style magnifique de Richard Ford et magnifiquement rendu par José Camus.
Lequel Richard Ford a déclaré dans une interview récemment qu'il était en train d'écrire son roman, qui serait son dernier roman. Donc la partie un peu mélancolique qu'on éprouve est liée aussi au fait que il écrit son dernier roman après ce recueil de nouvelles.
Oui, mais c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il n'avait pas tellement envie d'écrire. Ça ne le dérangeait pas d'arrêter d'écrire. Il adorait le journalisme, par exemple, et il adore la chasse, la pêche, il avait d'autres choses à faire. Donc il a toujours eu ce rapport-là très... comment dire, lâche avec la littérature, au bon sens de lâche. Moi, je vais citer une autre phrase de Fitzgerald, c'est « Il n'y a pas de second acte dans la vie d'un Américain ». Et c'est précisément tous les personnages de ces nouvelles sont dans le second acte de leur vie. Ils ont des enfants, tous. Et j'ai eu le sentiment, en lisant ces nouvelles, qu'il avait utilisé quasiment des contraintes de l'Oulipo. J'ai l'impression qu'il est question d'Irlande quasiment dans toutes les nouvelles, d'une manière ou d'une autre. Des fois, c'est juste un café irlandais dans un coin. Mais il s'est donné des contraintes. Ils sont tous ou veufs ou divorcés. Ils ont tous des enfants. Ils sont tous dans un rapport avec leur ex. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mal? Est-ce qu'on peut recommencer?
Le premier mariage est toujours le meilleur.
Voilà, qui est quand même une phrase absolument incroyable.
C'est pas vrai.
Il y a une douceur et un... Une douceur et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que oui, il y aura bien un second acte dans la vie des Américains, contrairement à ce que disait Fitzgerald, mais il ressemblera à une pièce de Beckett. C'est-à-dire, il ne passera rien. Voilà. C'est un peu la tonalité.
Il y a toute l'histoire des États-Unis qui vient aussi en filigrane, puisque c'est ponctué par il y a l'ouragan Katrina, l'élection de Clinton.
La nouvelle sur Katrina est absolument magnifique.
Elle est magnifique.
Un avocat emmène sa fille chez le dentiste, qui est irlandais, évidemment, comme par hasard, et sa fille veut absolument dire au revoir à sa petite amie, sa copine de classe noire, qui s'en va parce que eux sont des pauvres et leur maison a été détruite. Et cette nouvelle est poignante et belle. Quoi.
Rien n'a déclaré. Nous, on déclare qu'il faut lire.
Ah oui,
rien n'a déclaré. De Richard Ford, et c'est aux éditions de L'Olivier. Le temps est venu des conseils et on va commencer avec Elisabeth.
Oui, alors moi je voudrais recommander Journée particulière de Célia Houdard chez POL. C'est un petit livre d'une centaine de pages et la journée particulière qui donne son titre au livre, c'est celle qu'a vécu un certain Alain, un ami de l'écrivaine qui au début des années 90 prenait un café. Cet homme est photographe et un inconnu est passé devant la table, a pris l'appareil photo de ce Alain et a dit « Est-ce que je peux vous prendre en photo ?» Il se trouve que cet inconnu, c'était Richard Avedon, le plus grand photographe américain qui a immortalisé Marilyn Monroe, Truman Capote, Samuel Beckett. Et cette journée particulière, 30 ans après, continue de hanter celui qui a été photographié par Richard Avedon. Et il demande donc à Célia Houdard d'écrire ce récit pour essayer de comprendre pourquoi ce moment-là a autant marqué.
Donc c'est un roman photo, quoi.
C'est un roman photo, ou un photoroman, et en tout cas plein de grâce, plein de magie. Et à l'heure des selfies où on se prend continuellement en photo, ça redonne justement au fait d'être photographié sa magie et son mystère. C'est très très beau.
Célia Houdard.
Journée particulière chez POL.
POL, le conseil de Jean-Claude.
Si maintenant j'oublie mon île, vie et mort de Mike Brandt, par Serge Eroldi aux éditions de l'Antilope.
Enfin Mike Brandt.
Oui. Alors,
Qui sera?
Le 25 avril.
Qui 19... sera?
Ben, on va le savoir. On va le savoir. Le 25 avril 1975, Mike Brandt se défenestre et se suicide. Il a 28 ans. Et les témoins qui le voient tomber entendent un cri inhumain. Ils hurlent non.
Le dernier chose en parlait hein, au passage.
Oui.
Le dernier
roman du
Schnauz. Absolument.
Absolument.
Ah ouais. Ça se passait dans une rue.
C'est la rue Erlanger. C'est la fameuse rue Erlanger. Et donc Serge.
Non, pourquoi non? Il voulait pas se.
Alors justement,
se jeter, alors.
Serge Héroldi s'engouffre dans ce hurlement sans retour. Et il essaie de comprendre pourquoi il y a ce nom. Et donc, il va dépasser ce que tu viens de faire, l'apparence du belâtre aux rengaines sirupeuses. Il
mais
va s'intéresser.
T'as commencé
à chanter. Et
j'aurais pu continuer,
mais tu l'as enfermé dans ce côté belâtre comme ça avec des rengaines sirupeuses.
J'ai montré ma culture générale.
C'est vrai. Donc il cherche le pourquoi de ce nom, voilà. Et donc il va s'intéresser à la généalogie de Mike Brandt et il va s'apercevoir qu'il est l'enfant de juifs errants à nouveau. Le père avait intégré l'armée rouge pour combattre les nazis et la mère était une rescapée d'Auschwitz. Ils ont été refoulés à Chypre l'un et l'autre au moment d'aller sur la Terre promise. Mais alors, il y a eu un moment où on les a refoulés, ils iront plus tard, et Mike Brandt est né à Chypre. Et à partir de là, il explique qu'en yiddish...
Mais Brandt... ne raconte pas toute la vie de Mike Brandt,
non,
parce que l'émission se termine.
Non, d'abord elle est courte, elle ne dure que 28 ans. Brandt en yiddish, ça veut dire feu. Et Mike Brandt a essayé plusieurs fois de se suicider. Cette fois-ci, il avait réussi. Ce que je voudrais, pourquoi je parle de ce livre, c'est un livre étrange et intrigant qui s'enroule autour de la question du mal et du sens énigmatique de la vie. Et si j'insiste, c'est que Serge Héroldi a déjà écrit un certain nombre de livres et il a derrière lui une œuvre protéiforme, trop discrète et qui demande à être connue et pas à être coupée.
On rappelle le titre à l'éditeur.
Si maintenant j'oublie mon île, Vie et mort de Mike Brandt, édition de l'Antilope, Serge Héroldi.
Je vais aller plus vite pour conseiller Sommeil d'ours d'Alain Galland aux éditions Le Temps qu'il fait, très bon petit éditeur de l'Ariège. Et le narrateur trouve un jour une peau d'ours dans un vide-grenier, dans le Limousin. Il la nettoie, il l'aère, il la porte comme une robe de chambre. Et alors, il se met à vivre un étrange voyage dans le temps, dans l'espace. Il rejoint des ours dans les vallées des Pyrénées, dans la grotte de Lascaux. Il guette évidemment dans le ciel la grande ours. Et surtout, il relit Flaubert, qui écrivait à Feydeau « Je mourcifie », ainsi que « Peau d'ours », chef-d'œuvre, signé Henri Calais. C'est une merveille, c'est signé Alain Galland, et c'est aux éditions Le Temps qu'il fait, Sommeil d'ours. Olivia.
Bah, je vais être très brève, c'est juste parce que c'est magnifique, c'est une bande dessinée. On devrait parler de bande dessinée, Jérôme. Il y a des bandes dessinées absolument...
Oui, mais le problème de la radio, c'est qu'on ne les voit pas, les images.
On peut les raconter. La jeune femme et la mère, c'est le nouvel album de Catherine Meurice, chez Dargaud. Elle est envoyée en résidence artistique au Japon et elle veut renouveler son stock d'images mentales. C'est une sorte de traversée des paysages du Japon, mais splendide, racontée avec un humour fou, avec beaucoup, beaucoup d'imaginaire. Elle raconte cette inquiétante étrangeté à découvrir un pays où tout est bizarre. Évidemment, on rêve d'y aller, mais on n'a pas besoin d'y aller tellement c'est beau. Ça s'appelle « La jeune femme et la mère » et c'est inspiré d'oreillers d'herbe. De
Catherine Meurice est séchée.
Dargaud.
Le conseil pour finir, un peu vite d'Arnaud, pardon.
Pour me soigner de ma lecture de Ruffin, les éditions Gallimard ont sorti un beau livre autour de Le mot analogue de René Dommal, l'inédit, le roman inachevé de René Dommal, qui concerne une montagne invisible. René Dommal qui disait la porte de l'invisible doit être visible. Et donc, y a ce texte-là, ce roman très, très court, qui est entre Jules Verne et Rimbaud, a été, on apprend ça dans ce beau livre qui est coordonné par Boris Bergman, l'écrivain, qui est préfacé par Patti Smith, parce que c'est un grand texte de la contre-culture américaine, c'est devenu un grand texte de la contre-culture américaine, Le mot analogue, et c'est vraiment un livre absolument merveilleux qui était le livre de chevet de François Mitterrand lorsqu'il était à l'hôpital, par ailleurs.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque à la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Elisabeth Philippe, Olivia de Lamberturie, Arnaud Vivian, Jean-Claude Raspienjas pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Sella. Mais ce soir, au théâtre de l'Alliance Française à la Technique, il y avait, et je les remercie, Bruno Mourland, Nicolas Depagraf, ainsi que Maxime de Peretti pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 2 décembre. Je vous attends nombreux à partir de 19h au théâtre de l'Alliance Française 101, boulevard Raspail dans le 6e à Paris pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera des films. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.